Les prophètes avaient annoncé que le sang de David devait couler dans les veines de celui qui serait le Messie. Or, le sang de David ne coulait que dans les veines de Joseph et non dans celles de Jésus. Nous voyons, une fois de plus, la raison d'être de la seconde généalogie, celle de Luc, chapitre 3, versets 22 à 38. Nous pouvons en effet y lire ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, écoutez bien, fils de Joseph, qui était fils d'Élie. Y a-t-il opposition entre les deux généalogies? Matthieu dit clairement que Jacob avait engendré Joseph, tandis que Luc stipule que Joseph était fils d'Élie. Non, il n'existe aucune contradiction dans la parole de Dieu. Les Hébreux ne permettaient jamais que le nom d'une femme soit cité dans une généalogie lorsqu'un lignage s'arrêtait. Il devait nécessairement se terminer par le nom du beau-fils et non par celui de la fille. Chacun savait très bien à l'époque que Marie était la fille d'Élie. Cela se trouvait écrit dans le Talmud. C'est là que nous pouvons lire que Jésus était le fils d'une certaine Marie de Bethléem, la fille d'Élie. Marie faisait également partie de la maison de David, mais sa parenté est issue de Nathan et non de Salomon. Ceci dégage directement la mère de Jésus du sang de Jéhoiakim, sur qui planait une malédiction divine. Par Marie, le Christ descend de David, et par son père adoptif, il a légalement droit au trône de David. Chaque ligne du Nouveau Testament a un but et une finalité. Tel est le cas pour ces deux généalogies qui peuvent maintenant être considérées sous un angle très différent. Mais il nous faut parler de l'objectif poursuivi par ces deux relations de descendance. À nouveau, la relation de Matthieu sera envisagée la première. Bien que chaque famille israélite vivait dans l'espoir de voir le Messie naître en son sein, il était évident qu'il fallait qu'il naisse parmi les descendants de David. Par conséquent, lorsque Matthieu présente Jésus-Christ comme étant ce roi attendu, il doit nécessairement stipuler de quelle lignée il est issu. Ça n'empêche pas une multitude de gens de l'époque et d'aujourd'hui de le rejeter. Cependant, son ascendance prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé avec tant d'exactitude. La maison de David se termine par lui. S'il n'est pas ce roi, Israël n'a plus aucun espoir de voir venir le Messie. Matthieu veut donc avant tout prouver que Jésus est bien le Christ, le Messie, le roi de l'Israël spirituel. Il est intéressant de savoir que Matthieu retrace le lignage de Jésus sur 42 générations divisées en trois groupes de 14. Et cela pour une raison très précise. Ces trois groupes représentent trois époques de l'histoire d'Israël. Le premier part d'Abraham pour aboutir à David. Voir verset 17. Autrement dit, depuis le fondateur de la nation juive jusqu'au premier roi d'Israël, Saül, qui était un benjamite, choisi par le peuple et non par Dieu. Il fut institué par l'Éternel et le royaume d'Israël se fonda alors à proprement parlant en ayant David pour roi. Abraham avait été à la tête d'une nation régie par une alliance. La promesse voulait aussi qu'Abraham soit l'initiateur d'une descendance de laquelle serait issu celui par qui toutes les nations de la terre seraient bénies, Jésus-Christ. Genèse chapitre 22, verset 18, et dans le chapitre 18 aussi le verset 3. Matthieu attire l'attention des Juifs sur le fait que ce n'était pas le plus grand des fils d'Abraham que les promesses allaient s'accomplir. Si le monde devait être à jamais béni, ce serait par lui, par aucun autre. L'apôtre clôture donc la première partie de son exposé en citant David. Il met ainsi en exergue une vérité première. Celui qui s'assiérait sur le trône serait un descendant de ce grand roi. Il est évident que pour Israël, les deux grandes promesses consistaient tout d'abord en une bénédiction de toutes les nations par la descendance d'Abraham, et ensuite la venue d'un roi issu en particulier de la maison de David. Matthieu est péremptoire. L'Écriture est accomplie. Le second groupe, les 14 générations, est de nature monarchique, mais sa fin est inéluctable après la malédiction que Dieu prononce sur Jéhoiakim. La troisième partie des ascendants vit à l'époque de la déportation de Babylone. Elle s'éteint par l'arrivée promise du roi qui va conduire les hommes vers une liberté totale, sauf bien entendu pour ceux qui choisiront de rester en captivité. Voici donc le but poursuivi par Matthieu dans sa citation de la première généalogie, démontrer que le Messie est le plus illustre fils d'Abraham, le plus grand de la maison de David, celui qui doit régner en toute justice et en toute vérité. Le but poursuivi par l'Évangile, selon Luc, est bien d'établir la royauté du Sauveur sur Israël, mais surtout de démontrer qu'il est sans conteste le Messie de par la descendance de la femme et par conséquent le Sauveur du monde entier. C'est la raison pour laquelle Luc fait remonter la généalogie de Christ jusqu'à Adam. Après la chute de l'homme, Dieu avait fait entendre à Adam qu'un sauveur serait donné, voir Genèse par exemple, chapitre 3, verset 15. C'est-à-dire qu'en écrasant la tête du serpent, l'homme aurait accès à la rédemption. Dans l'Écriture, on parle d'Adam comme du premier Adam, en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. À cause de lui, nous est-il dit, tous meurent. En Christ, le second Adam, chacun pourra revenir à la vie. Luc parle du Christ comme étant le Fils de l'homme, le second Adam, parfait, sans péché, né d'une vierge. Il le présente comme celui qui offre sa vie pour redonner à l'homme ce qu'il avait perdu par le premier Adam. En tant que prémisse de l'ancienne création, Adam est mort, et avec lui toute l'humanité. Christ, le second Adam, a obtenu la victoire sur le péché, ou sur la mort spirituelle, si vous voulez, et prend ainsi la tête de la nouvelle création. L'homme, par la foi en lui, est libéré de l'ancienne malédiction, sauvé de ses atroces résultantes, et ressuscite pour s'associer avec lui dans les lieux célestes. Pour terminer, certaines leçons restent à tirer de ce qui précède en matière de généalogie. Leur but était de présenter Jésus comme celui par qui toutes les nations soient bénies, le roi qui régnerait dans la justice et dont le royaume n'aurait jamais de fin. Ils sont ensuite donnés afin que tous les hommes, où qu'ils se trouvent, puissent voir que le Christ représente bien la descendance promise à la femme. Et cette semence a été envoyée à l'époque appropriée, dans la plénitude des temps, née de la femme, née sous la loi, pour la rémission de ceux qui vivaient sous la loi. Mais d'autres choses attirent encore l'attention. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, quatre femmes sont mentionnées. Dans les généalogies, elles sont toutes absentes et pour cause. Ce fait ne peut être mis que sur le compte d'une règle strictement observée dans un but précis. Dans le verset 3, Matthieu mentionne Tamar. Genèse 28 retrace également l'histoire de son péché, et cependant elle est citée dans le lignage du Sauveur. Au verset 5 et suivant, se trouve Rahab, l'étrangère, que ne concernait en rien l'alliance avec Dieu. Ensuite, vient Ruth, originaire de Moab. Enfin, le verset 6 parle de la femme d'Uri, avec qui David commit son horrible péché. La question se pose, pourquoi ces femmes-là sont-elles citées? Il est plausible de penser que l'Esprit de Dieu désirait que le nom de Jésus, le Christ, se trouve mêlé à ceux de certains pécheurs ou amis des pécheurs. Il est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs et aucun d'entre eux n'est trop bas, trop vil. Le nom de ces femmes semble crier par-delà le siècle la fameuse phrase « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Aucun pseudo-messie ne peut faire remonter son lignage jusqu'à David. Personne n'a d'ailleurs jamais tenté de le faire. La lignée de David se termine par Jésus. Il est important que chacun le sache. La démarche enseigne qu'un jour, celui dont on parle reviendra et qu'alors il rétablira le royaume d'Israël. La généalogie qui s'arrête là, avec lui, n'aura en fait jamais de fin.